Écoutez Fréquence Mistral, il est 11h, nous sommes en direct de Pierrevert à l'occasion des nuits photographiques. On retrouve François Malabave pour une émission spéciale. Bonjour François.
Bonjour Patrice, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de Fréquence Mistral. C'est un moment fort dans le festival des nuits photographiques de Pierrevert, mais c'est aussi un moment fort pour notre antenne que de parler photographie sans voir de photographie. C'est un petit peu le challenge que nous avons développé avec nos amis des nuits photographiques de Pierrevert depuis déjà 5 ans, et j'ai le grand plaisir d'accueillir le président tout d'abord des Nuits Photographiques, notre ami Stéphane Cosman. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous, bonjour François, et merci encore une fois d'être avec nous. C'est un rendez-vous important pour nous.
Tout à fait, mais pour nous aussi c'est réciproque. Stéphane, on peut rappeler l'origine de ce festival à Pierrevert?
L'origine, elle est très personnelle. Il n'y avait pas grand-chose, enfin dans le 04, il n'y avait aucune manifestation photographique. Donc avec mon ami François-Xavier Emery, on a eu l'idée de faire ce festival, de faire quelque chose pour notre commune. Comme on arrivait, on était autour de la cinquantaine, on s'est dit, tiens, on peut peut-être transmettre quelque chose et donner une visibilité surtout aux jeunes photographes, et aussi à des photographes qui sont, entre guillemets, oubliés ou qui n'ont pas eu la volonté de se mettre un moment en avant pendant leur carrière.
François-Xavier Emery, Stéphane Cosman, ce sont des photographes professionnels. Il y a également 3 autres photographes qui font partie de votre équipe ici même, dont Alain Gualina, qui est aussi photographe professionnel, mais aussi Henri Cartman et Yves Marché. Il y a vraiment un noyau, il y a un air spécial à Pierrevert.
On dirait.
On dirait. Donc Pierrevert, c'est bien sûr du vin AOC de grande qualité, mais c'est aussi la photo depuis 5 ans. Ça veut dire aussi que le festival se porte bien. 5 ans, c'est une pérennisation de cette activité.
Le festival se porte très bien. En tout cas, au niveau convivialité, toujours la même chose. Nous accueillons 50 photographes chaque année. Et ces photographes sont hébergés par les habitants du village. Et ça fonctionne super bien.
Stéphane, on peut aussi parler de vous-même et de ce que vous faites comme photo. Généralement, c'est au Festival de Cannes que vous officiez. Pourtant, vous résidez un petit peu à Pierrevert et beaucoup à New York. Comment vous arrivez à articuler tout ça et votre carrière?
Difficilement, difficilement. Beaucoup de voyages. Malheureusement, au cours d'un de mes derniers voyages, j'ai eu petite catastrophe personnelle. J'en profite de passer à l'antenne pour en parler. Vous qui connaissez un peu mon travail, si vous trouvez sur des réseaux sociaux des images qui m'appartiennent, on m'a volé un disque dur dans un TGV. J'ai perdu 4 ans de travail personnel. Voilà, toute ma préparation pour mon bouquin sur New York.
Donc si vous avez des photos, retournez-les à Stéphane et je suppose qu'il fera un petit geste pour vous remercier de ce type d'activité.
Fait. Tout à fait. Et en tout cas, j'encourage les photographes, et c'est vraiment un conseil, de sauvegarder leur image, pas à la maison, pas sur des disques durs, mais d'affaire appel à une société qui le fait, et qui le fait virtuellement dans un endroit qu'on ne connaît pas.
Avant de recevoir d'autres invités pour cette émission qui est en direct de Pierrevert et qui va durer une heure, Stéphane, vous étiez au Festival de Cannes dernièrement et j'ai vu dans un quotidien de la région une photo de Stéphane Cosman avec une certaine Sharon Stone. Comment ça s'est passé cette rencontre?
Tu vois, on ne peut plus rien faire maintenant.
Exactement. Il y a des indiscrétions qui sont là.
Avant, tu pouvais te balader tranquillement. Maintenant, il y a un portable.
Trêve de plaisanterie. Comment ça s'est passé?
Non, trêve de plaisanterie. Mes clients, j'ai des clients réguliers sur le Festival de Cannes. Et cette année, Madame Sharon Stone était leur égérie. Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer, de la photographier pour la 3e fois. Et je lui ai offert mon dernier livre. Et voilà, elle m'a demandé, tu pourrais me faire une dédicace. Et puis voilà, et puis après, sa sœur a pris mon boîtier. Elle a fait des photos de nous, tout simplement.
Et puis après, il y a un article dans la Provence, notamment, sur cette belle rencontre. On peut signaler aussi, Stéphane, que les bâches qui ornent les murs de Pierre Vert sont signées Stéphane Kaussmann, avec des grandes stars d'Hollywood. Il y a une complicité qui se crée quand on photographie un De Niro ou Isabelle Adjani ou d'autres artistes. Comment ça se passe ?
Alors, sur ce travail particulièrement, il n'y a aucune complicité, puisque je suis juste témoin d'un événement. Et la marque de fabrique de mes images, c'est justement de ne jamais avoir le regard dans la caméra. Donc j'attends les petits moments de non-pause, ce qui permet d'avoir des images très candides. Et on a vraiment l'impression d'être intime avec ces stars qui sont quotidiennement photographiées.
Merci Stéphane, vous restez avec nous évidemment pendant toute cette émission. On attend avec impatience Jean-Daniel Lorieux, qui est le parrain de cette édition et qui va nous parler de sa carrière. Juste à nos côtés, il y a un photographe, vous exposez une cinquantaine de photographes, il faut le dire, actuellement à Pierre Vert pendant tout le week-end. Il fait un travail assez étonnant. Et j'ai beaucoup apprécié sa manière d'approcher la photographie. C'est Pierril Pétavi. Bonjour Pierril.
Bonjour.
Vous avez fait une exposition qui s'appelle, une série de photos en tout cas, qui s'appelle Bagnole.
Exactement, c'est des courses de bagnole américaines. Donc c'est une série qui travaille le mythe de la grosse bagnole américaine, le mythe aussi du road movie dans le cinéma américain. Donc c'est à la fois ce mythe de la voiture et de la course-poursuite dans le cinéma américain. Le travail sur les grands espaces, c'est une série donc de photographies recomposées par rapport au film. Et c'est une façon de détourner les images existantes, avec un plaisir assez ludique de recréer des images à partir d'un matériau existant.
Vous êtes fasciné par les voitures américaines, les grosses bagnoles ?
Non, pas du tout, non. C'est vraiment par hasard. Je travaille beaucoup par expérimentation. Et une fois que je trouve des choses qui m'intéressent, je travaille des séries. Et je ne suis pas du tout passionné par les voitures, j'y connais rien. Et voilà, c'est vraiment un travail plastique, on dira. Et ensuite, je travaille vraiment les séries.
Ce qui frappe dans vos photos, c'est la composition de ces photos avec des grandes diagonales ou des grandes perpendiculaires. Et puis après, on se rend compte qu'il y a pas un personnage, mais quelque chose d'un peu particulier. C'est une bagnole, oui, en plein milieu. Et, vous êtes attiré par l'architecture, par exemple, des choses comme ça?
Oui, l'architecture, oui. Je suis un photographe qui travaille beaucoup l'urbain, les grandes villes, le mouvement. Je fais beaucoup de photos en déplacement, en mouvement, dans les trains, les bus, les voitures, justement dans l'univers urbain. Et oui, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est toujours la frontière entre la réalité et l'illusion. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la représentation photographique, mais de dépasser un peu ce cadre de la réalité photographique.
Et d'autres sujets que les grosses caisses ?
Il y en a beaucoup. En fait, je fais beaucoup de séries différentes. Je fais depuis quelques années un travail avec un Brownie Flash, un appareil des années 50 tout en plastique, qui me permet de faire des prises de vue. Ça déconnecte de la prise de vue. On est toujours derrière un appareil photo, l'œil derrière, collé derrière un viseur. C'est un appareil qui permet, je fais des prises de vue sans viser en fait. Et c'est très maniable, et en voyage c'est très agréable de ne pas se balader avec un matos extrêmement lourd pour faire des images. Et en plus, ça me permet de rencontrer les gens qui me disent « Ah, mais tu fais des photos avec ça, ça marche et tout ça ». Quand j'étais à New York, il y avait des Américains qui passaient dans la rue « Ah, Bonnie, Bonnie ». Comme ça, donc c'est une façon de rencontrer les gens aussi.
Ce sont des appareils qu'on trouve facilement ?
Oui. Maintenant, même sur eBay, on trouve des... Mais c'est un appareil qui coûte 10 euros, on prend des pellicules 120, et on bidouille un peu les axes parce que les pellicules 620 n'existent plus. Donc les axes sont un peu... Et puis après, voilà, on...
Et après, on fait une expo aux nuits photographiques de Pierre Vert.
Voilà, c'est ça.
C'est la première fois que vous venez, je crois, à ce festival.
Oui, oui, oui.
Comment vous le trouvez ?
Ben, super, ambiance très conviviale. Tous les habitants qui accueillent les photographes, apparemment, sont extrêmement ravis de l'accueil. Et nous aussi, avec Jérôme, avec qui j'ai fait le montage de la projection de ce soir, on est accueillis chez Marcel Cartman. Et voilà, c'est extraordinaire, quoi.
Il y a à la fois la photo, mais également la convivialité, le fait de pouvoir parler de sa passion, mais aussi d'autres choses, éventuellement.
Oui, mais en fait, moi, on m'avait parlé depuis un moment du festival de Pierre Vert, et la chose qui revenait, c'était la convivialité, la sympathie et les rencontres aussi, parce que c'est pas forcément toujours évident, même dans d'autres festivals, de rencontrer à la fois les photographes, les habitants. Ça, c'est très agréable.
On rencontre des photographes qui sont en gestation, des photographes qui sont en devenir, et puis des photographes confirmés. Vous avez pu parler avec Jean-Daniel Lorieux, par exemple, cette année.
Oui, parce que hier, il y a eu le vernissage de mon exposition à Montfuron, et il y avait toute l'équipe. Donc voilà, on se rencontre, on se salue, puis après, il reste encore un jour et demi. Donc voilà, on va encore discuter et rencontrer plein de gens.
Bon festival, Pierre-Yves Pétavy.
Merci beaucoup.
Puis bon retour à Pierre Vert. Hier, Bernard Plossu disait que à Pierre Vert, on y vient, mais on y revient aussi.
Voilà, c'est ça. Maintenant, on va avoir le virus. On va venir chaque année.
Merci. À très bientôt. Il est arrivé avec un grand plaisir. On l'accueille ici même. C'est Jean-Daniel Lorieux. Bonjour, Jean-Daniel.
Bonjour. C'est un grand plaisir d'être là. Merci de nous recevoir.
Vous êtes le parrain de cette édition. Vous êtes un photographe très, très connu. Et en même temps, vous débarquez à Pierre Vert dans le cadre de ce festival. On vous a senti hier à l'inauguration très curieux, très gourmand des rencontres.
D'abord, je suis gourmand parce que j'aime beaucoup la cuisine locale et les restaurants qu'il y a ici. Donc, c'est une raison d'être gourmand. Mais surtout, de voir les expositions de tous ces merveilleux photographes qui sont également des concurrents pour qui j'ai une jalousie admirative, et je pense que ça nous apporte énormément de voir que dans des créneaux très différents de la photographie de mode, qu'il y a des gens qui sont vraiment des artistes, des chercheurs, et je pense qu'entre nous tous, de voir ce que font les autres nous apprend différentes techniques, comme vient de l'expliquer notre ami. Et donc c'est extrêmement enrichissant. Et je pense que de venir également dans ce merveilleux festival où j'espère de tout cœur revenir l'année prochaine, je ne suis pas sûr que Stéphane veuille bien me recevoir, mais je vais essayer de lui faire un peu de charme, mais je serai extrêmement honoré d'apporter une de mes expositions et d'être un des invités si c'était possible, parce que ça nous apporte vraiment beaucoup.
L'idée est lancée, vous avez déjà un fan, c'est moi. Donc on va le travailler un petit peu. Photographe de mode réputé, Jean-Daniel Lorieux, vous avez réalisé bien des pochettes des 45 tours des années 60 et 70, l'époque des yéyés.
Ah, tout à
Johnny,
fait.
Johnny, Sylvie, Eddie, Sheila, etc. Mais aussi Christophe, sans ses lunettes teintées.
Voilà, la première pochette, Aline, j'avais dessiné son nom sur le sable.
Oui, vous l'avez dessiné sur du papier.
Absolument, oui.
Vous avez également photographié Philippe Clay, Mireille Mathieu et Patrick Dufy, puis la mode avec Claudia Schiffer, Linda Evangelista, des clichés célèbres pour Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, etc. Le cinéma avec Isabelle Adjani notamment,
oui.
Mais aussi Anne Pario, Brooke Shields et des travaux remarquables, La guerrière de l'affiche des nuits, des naïades tenant deux vrais tons à bout de bras, ou un simple flacon de parfum, tout ça. Mais avant d'être un photographe de l'élégance, c'est à la guerre que vous avez commencé à mitrailler, façon de parler.
Ah oui.
Jean-Daniel Lorieux, c'est en Algérie, durant votre service militaire, que vous faites vos premières armes de l'image.
Oui, tout ça est très bien dit, bravo. Effectivement, à l'époque, ça n'était pas une guerre. Nous étions obligés pour la plupart, pendant le service militaire, de partir assez longuement. Et j'avais envie d'être dans le cinéma, donc je travaillais auprès de grands metteurs en scène comme Marcel Carné, etc. Mais je dois dire que ce n'est pas moi qui faisais la qualité des images. On m'envoyait plutôt chercher un paquet de cigarettes. Il n'y avait pas de bouteille de Coca-Cola, je pense, à l'époque. Mais nous étions au service de ces gens qui nous impressionnaient énormément. Ce qui fait que quand je me suis retrouvé militaire, j'avais par hasard passé mon nez comme mauvais comédien dans un film. Et le colonel m'a appelé en me disant « Mais vous êtes sous la guitoune là, avec vos mitrailleuses depuis quelques mois. Je crois que vous êtes passionné de photos. » Et en essayant de me planquer, comme on dit, j'ai dit « Oui, j'adore la photographie, mais j'y connaissais rien. » Si ce n'est que j'avais fait un endroit qui s'appelle Manosque. Je ne sais pas si vous connaissez.
Un petit peu.
Oui, voilà. J'avais fait par hasard une photo, là, d'un monsieur qui attendait dans un coin, je le racontais hier, et qui était Fernandel et qui tournait avec Jean Giono, Le mouton à cinq pattes. Donc, je me suis retrouvé à monter une section de photographie de renseignements quand il y avait des attaques dans l'Oranais, etc., et des choses assez dures que je crois qui seront projetées cet après-midi dans certains petits extraits de films ou de making-of. Voilà. Donc, j'ai démarré comme cela. Et ensuite, eh bien, j'avais envie de... Après ça, de montrer la beauté, le soleil. Effectivement, je trouve que maintenant, lorsqu'on ouvre les chaînes de télévision, je n'ai rien contre, mais quand on ouvre la télévision ou quand on écoute les nouvelles, on ne parle que de drame. Et il y avait autrefois un magazine qui nous faisait sourire, mais qui s'appelait Jour de France. Et dans Jour de France, on ne montrait que de jolies choses. Évidemment, c'était peut-être un peu trop... On est obligé d'être confronté, bien entendu, à ce qui se passe dans le monde. Mais je trouve qu'il faut aussi montrer que sous les nuages, si on gratte un petit peu, eh bien, il y a du soleil et on a tous besoin d'avoir du soleil. On n'est pas obligé d'avoir une température de 35-37 degrés, mais enfin, on s'y fait. Mais on a besoin de voir le soleil, de rêver, surtout quand il y a des douleurs ailleurs dans le monde.
Et quand ça s'est passé en Algérie, à plus forte raison, dans les années 50. Oui. Et c'est peut-être un exorcisme aussi pour vous que de photographier la beauté comme ça, comme vous l'avez fait pendant 40 ans après. Réputé Jean-Daniel Lorieux pour votre style esthétique et inspiré, vous êtes classé comme photographe du glamour. Le glamour d'aujourd'hui est-il le même qu'il y a 30 ans ou 40 ans ?
Je pense que le glamour a changé même depuis 10 ans. Je dois dire qu'effectivement, les années 80... étaient un peu les années de l'insouciance, de la gaieté, de la joie. Et puis peut-être aussi étais-je plus jeune. Mais je pense qu'effectivement, le monde a tout de même beaucoup évolué. Le glamour, quand on regarde les magazines de mode, maintenant, en dehors de... Je veux dire, quelquefois, quand j'ouvre un magazine et que je tombe d'admiration devant des photographies, ça me fait un immense plaisir. Je dois dire que dans les années 80, même jusqu'à 95, les magazines créneaux mode, il y avait tellement de belles photos, de femmes merveilleuses. Toutes les couvertures de magazines, que ce soit Elle, Vogue, Harper's Bazaar, c'était des filles saines, bien dans leur peau, souriantes. Toutes les couvertures de magazines, c'était la joie et le sourire. Eh bien, je dois dire que maintenant, ça nous manque, en tout cas moi, ça me manque. J'ai envie de voir des gens heureux, souriants. Et c'est une façon aussi peut-être de masquer la douleur, mais je pense qu'il faut, c'est effectivement peut-être, allez-vous dire, c'est tromper son monde, mais on a besoin de montrer cela, ne croyez-vous pas ?
On a besoin de rêver.
Il faut rêver, oui.
Vous avez aussi beaucoup côtoyé de stars, est-ce qu'on peut dire qu'il y a stars et stars ?
Oui, quel est le mot star ? Je dois dire que... je trouve que les grandes stars, enfin stars, je pense à des gens mythiques à l'image, pardonnez-moi, des gens mythiques à l'image, je pense des gens comme Sharon Stone, que j'ai eu le plaisir de photographier, bon, sont des gens simples, gentils, etc. Et puis il y a des comédiennes moins importantes, je trouve que quand les gens descendent, sont des niveaux en dessous, moins ils sont importants, plus ils sont compliqués. Et les gens de très haut niveau, j'ai fait des campagnes publicitaires pour certains présidents de la République, comme M. Chirac, etc., des choses tout à fait accidentelles par rapport à ma carrière de photographe. Je trouve très amusant qu'un monsieur qui a photographié des tas de filles sur la plage, comme moi, un jour soit confronté à faire une campagne présidentielle. Donc c'est ça qui fait vraiment la joie et le bonheur de mon activité, raison pour laquelle, moi, si on me demande de faire ceci, cela, en principe, je dis toujours oui. Voilà.
Vous avez déclaré hier, Jean-Daniel Lorieux, que vous étiez content d'être à Pierre Vert parce qu'il y avait de jeunes photographes qui étaient pleins de dynamisme, de créativité.
Oui, oui.
Et vous avez assisté à pas mal de projections et d'expositions. Vous avez repéré quelques artistes qui vous semblent promis un bel avenir ?
Eh bien, écoutez, tout d'abord, je dois dire que je n'ai pas encore vu tout, mais je continue cet après-midi. Mais dans l'ensemble, vous savez, je crois qu'il est extrêmement difficile de dire à telle personne, et dans toutes les activités, que ce soit l'architecture ou enfin autre chose, de dire, tiens, vous allez faire une belle carrière. On peut se tromper énormément, mais moi, tout ce que j'ai vu, en tout cas jusqu'à présent, d'une très jeune fille, ce que j'ai vu hier dans la projection formidable qu'avait organisée toute votre équipe ainsi que Stéphane, ça apporte énormément. Alors vous dire, un tel va faire une belle carrière, oui ou non, je pense qu'il y a des gens qui ont un grand talent et qui restent dans l'ombre, et puis il y a d'autres petits qui ne le méritent pas, qui se mettent en avant, comme l'a fait Lorieux.
Il l'a bien fait, il a bien fait. Jean-Daniel, oui. À vos côtés, il y a Stéphane Kosman qui est le président et qui est de votre ami des nuits photographiques de Pierre Vert.
Que de nuits.
Stéphane, vous avez organisé cette année quelque chose d'un petit peu particulier avec une opération coup de pouce pour des jeunes photographes, avec des stages que vous organisez et que vous allez organiser durant l'année de manière régulière. Et j'ai le plaisir d'accueillir Agathe Omnes qui nous a rejoint. Elle a 17 ans et elle a suivi ses stages.
Je voulais juste, excuse-moi. Bonjour. François, oui. Je n'ai pas organisé moi-même les coups de pouce. Je rappelle que c'est Margot Aubin qui est notre jeune directrice artistique et qui a proposé...
Jeune et talentueuse
et qui a amené le festival à un autre niveau cette année. Et qui a organisé ces coups de pouce comme elle les a appelés, en fait.
L'objectif, c'est quoi, Stéphane ? C'est d'aider les jeunes.
C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à Pierre Vert, on a envie, et Jean-Daniel peut le confirmer, quand on démarre une carrière et qu'on arrive très confiant avec son portfolio, son pressbook, on se présente devant un rédacteur ou une directrice de magazine de mode, on se met à poil. Et malheureusement aujourd'hui, on a des personnes qui sont à des postes et qui n'ont plus la culture de l'image. Donc moi, il m'est arrivé de présenter un portfolio et au bout d'un moment, de surveiller si la personne allait tourner la page et regarder la photo. Eh bien, ça arrive. Au bout d'un moment, le gars ou la fille tourne le pressbook et ne regarde plus la photo. Et à ce moment-là, je dis, écoutez, apparemment, vous perdez votre temps, moi aussi. Donc pour moi, l'interview, le rendez-vous est terminé. Donc, mais ça, c'est pas comme ça à Pierre Vert. On offre la possibilité, justement, à des personnes comme Agathe, d'être projetées avec Jean-Daniel Lorieux. Voilà, c'est ça le festival.
Je peux faire une petite parenthèse professionnelle pour des gens comme Stéphane ou moi qui vivons de la photographie. Je dois dire que quand je dois aller voir une grande agence de publicité, si je suis convoqué, c'est vous dire... pour soutenir ce que dit Stéphane, si j'arrive avec mon agent et un dossier dans lequel il y a des photos, ils regardent mes photos et s'ils veulent me prendre pour photographier, je dis n'importe quoi, ou des fourrures, ou un pull, ou je ne sais quoi, si dans mon dossier il n'y a pas une photo de fourrure et un pull, ils vont me dire, bon, on va vous retéléphoner. Si j'arrive les mains dans les poches en disant bonjour, je suis Jean-Daniel Lorieux, je viens vous voir, les gens me prennent, mais si je montre mon dossier avec mes photos, en général, ils ne me prennent pas. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas amené beaucoup de photos ici.
Mais vous en amènerez l'année prochaine, si j'ai bien compris. Agathe Omnes, rebonjour Agathe.
Bonjour.
Elle a 17 ans, elle est lycéenne et elle s'est inscrite à un stage pour pratiquer la photographie. Pourquoi cette idée bizarre ?
De faire le stage ?
Oui.
C'est mon grand-père qui m'a parlé de ce stage et... C'était, d'après ce que j'avais compris, c'était un stage plutôt technique et j'ai jamais fait d'études de photo. Pour l'instant, je vais passer mon bac. Et donc, je trouvais ça intéressant avec des photographes qui gagnent leur vie de leurs photos, qui ont quand même une grande expérience. Donc, j'y suis allée un peu, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'y suis allée un peu comme ça avec mon appareil et j'ai vraiment pas été déçue. C'était vraiment une chouette expérience.
Vous avez été encadré par Alain Gualina, Henri Cartman, François-Xavier Emery, c'est ça ?
Pas Henri Cartman,
oui. François-Xavier. Et Stéphane ?
C'est ça.
Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? De quoi ils vous ont parlé ?
Au tout début, ils nous ont beaucoup parlé de la technique, parce qu'il y avait énormément de personnes qui venaient pour passer de l'automatique au manuel sur leur appareil. Donc on a fait une grande partie technique où ils nous ont bien expliqué le fonctionnement de l'appareil photo. Et puis après, ils nous ont un peu lâchés dans la nature pour tester, pour apprendre. Donc on était répartis en petits groupes, chacun avec un photographe qui nous a fait faire des exercices différents. Ensuite, on montrait nos photos, les photographes nous donnaient des corrections, ils nous disaient ce qu'ils en pensaient. Et puis, on a eu un exercice aussi super intéressant. C'était, ils nous ont parlé de la photo de Bernard Plossu, du château d'eau de Pierre Vert. Ils ne nous ont pas montré cette photo, on nous a juste dit qu'elle était en noir et blanc, et ils nous ont dit d'aller photographier ce château d'eau à notre façon. Donc on y est tous allés sans
a priori.
Oui, voilà, on y est tous allés comme ça. Et au final, le résultat est franchement chouette.
Et ça a beaucoup plu à Bernard Plossu, visiblement, Stéphane.
Oui, Bernard, qui a fait le tour des expositions comme à son habitude, est tombé. C'était une surprise, on ne lui avait rien dit. Et grâce à Alain, Alain avait organisé à la salle de la Frache ce petit hommage à Bernard. Et ça lui a fait vraiment très, très plaisir.
Bernard Plossu qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, et c'est un petit peu dommage. Il a déclaré hier, il l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, à Pierre Vert, on y vient et on y revient. Ça fait plaisir, ça, quand on organise ce festival.
François, mon plus grand plaisir d'hier soir, outre que la projection était particulièrement réussie, vraiment on est monté en qualité, c'était de voir Bernard et Jean-Daniel côte à côte. Deux photographes complètement dans des univers complètement différents, et de les voir ensemble sur scène, ça m'a fait un vraiment chaud au cœur, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche à Pierre Vert, c'est que les photographes, on a tendance à être toujours dans notre petit monde, à travailler de notre côté, et là on a deux grands bonhommes qui se rencontrent pour la première fois. Ça, c'était extraordinaire.
Et avec une projection où on a des cadors de la photographie comme Jean-Daniel Lorieux ou comme Bernard Plossu, et puis des jeunes pousses comme Agathe Omnes, par
exemple. Tout à fait.
Agathe, je suppose que c'est pour vous une émotion un peu particulière d'être à la même projection qu'un Lorieux ou un Plossu.
C'est simple, en fait. Depuis que je suis arrivée mercredi dans l'équipe, je vis des choses de dingue. Tous les jours, il m'arrive des trucs... de fou, et je vis un peu un rêve les yeux ouverts.
Ça va continuer.
Oui,
il y a encore une journée pleine, et puis la journée de samedi est loin d'être finie. On va faire une petite pause musicale, plutôt rock'n'roll, parce qu'on va après parler de rock'n'roll. On vous remercie, on retrouve d'autres invités dans un instant, et je rappelle que vous êtes toujours en direct sur Fréquence Mistral, en direct des Nuits Photographiques de Pierre Vert.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. Show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can.
mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
C'est la vie, nous dit Chuck Berry, et Chuck Berry, c'est un grand du rock'n'roll. J'ai grand plaisir d'accueillir notre ami Jean-Pierre Tissier, que je vais, pas pouvoir vous voyez, donc vous m'en excuserez. Bonjour Jean-Pierre.
Salut François.
Jean-Pierre Tissier, journaliste à La Provence et amateur de rock'n'roll, de blues, de jazz, etc. etc. On t'a choisi en te mettant Chuck Berry, mais tout simplement parce que tu as eu des photos, notamment de Chuck Berry, qui sont exposées ici même dans le cadre des Nuits photographiques de Pierre Vert.
Oui, c'est une photo qui a été faite au château de l'Empérie à Salon de Provence à l'issue d'une très très longue attente parce qu'il était dans sa Cadillac rose devant le château et il ne voulait pas chanter. Donc on a attendu au moins 2 heures et puis il est venu et puis il a joué.
Et tu as pris des photos. Alors généralement tu suis les concerts et tu fais des rédactionnels, donc tu écris des reportages sur ces concerts. La photo pour toi c'est un outil supplémentaire ou c'est l'inverse, ou c'est l'écriture qui est un outil supplémentaire?
Non, la photo, c'est ma première famille. Et puis, je suis vraiment très, très ému de retrouver ma famille originelle, celle pour laquelle j'étais photographe de presse pendant 10 ans à Télémagazine à Paris. Et de retrouver ça...
Avec des grands noms.
Ça me touche beaucoup.
Depuis plusieurs années, bon, Toscani, Steve Hyatt, Jean-Daniel Lorieux, ce sont des personnes qui ont des carrières longues comme le bras. Hein.
Oui.
Et c'est pas fini.
C'est d'autant plus empreint de symbolisme. Enfin, ça. En plus, moi, c'est des photos qui ont été exposées très très rarement. C'est des photos que j'ai faites en 1970 à l'Olympia, la plupart. C'était mes toutes premières photos. Elles ont été victimes d'un incendie au pub Wicked Lady à Manosque. Il a fallu les nettoyer. Après, elles ont pris l'eau à une inondation chez moi. Donc, ma femme m'a refait des encadrements superbes. Et donc, j'espère que la troisième vie, celle-là, elle tiendra.
On l'espère aussi. Ce sont des photos en noir et blanc, Jean-Pierre. Des photos de presse, évidemment. Et en même temps, des photos de scène. On ne fait plus les mêmes photos maintenant sur scène. Avant, on était beaucoup plus libre, on pouvait des photos sans trop gêner. Maintenant, c'est terminé. Et puis maintenant, tout le monde a un portable et peut faire une photo, l'envoyer tout de suite sur Internet. Il y a des badges, il y a tout ce qu'il faut.
Oui, facile. À l'Olympia, on était assis au premier rang par terre parce qu'il n'y avait pas de place pour les photographes. Donc on était dans les rangs, dans les pieds de Bernard Buffet ou de la Belle Buffet ou de Georges Marchais ou Daniel Gilbert, suivant les concerts. Et puis, on était peu. Il y avait une dizaine à tout casser. Et sur les matchs de foot, après, puisque j'ai été photographe de presse à but dans toute l'Europe, et ben, c'est pareil, sur les terrains de foot des années 70, on n'était quand même pas énormément de monde. Hein, et puis là, d'un seul coup, ça a explosé. Alors, je ne sais pas si ce que font tous ces gens, mais j'espère qu'ils gagnent leur vie.
Pas avec les portables, enfin, selon moi. Jean-Pierre, il y a également ce qu'on appelle, nous, les afters, après le concert. Et il y a une de tes photos avec deux grands noms de la chanson française, Gilbert Bécaud et Claude Nougaro. Il y a une petite histoire là-dessus.
Ouais, c'est une photo qui a été prise à 4-5 heures du matin à un restaurant de nuit à Salon de Provence qui s'appelait La Boulangerie, qui était tenue par Michel Barral et où beaucoup d'artistes qui se produisaient dans le coin venaient manger. Il y avait 2 restaurants de nuit, Salon de Provence. Il y avait chez Gu également, là, qui était le parrain de David Hallyday, d'ailleurs. Et là, il était 4 heures du matin et on le voit au verre de marc de Châteauneuf-du-Pape bien rempli dans les verres ballons, que l'ambiance était très, très chaude. Ouais, on a passé une belle nuit, c'était sympa. Puis donc, j'ai fait ce cliché à 4-5 heures du matin, et c'est un beau souvenir. Maintenant qu'ils sont partis tous les deux, on les salue.
Et il y a la photo qui reste, donc ça c'est important. Merci Jean-Pierre, donc tu exposes, c'est au Bacchus, hein, à Pierre Vert.
Oui. Ça peut pas être ailleurs.
Si bien nommé, si, ça pourrait être ailleurs, mais c'est bien comme, comme lieu d'exposition. Il y a plusieurs photographes avec moi en plateau. Alors, il y a un photographe qui m'a attiré par par la démarche qu'il a, qui est un petit peu particulière, c'est Philippe Collignon. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Remontez un petit peu votre micro, d'accord, s'il vous plaît. Philippe, vous avez fait une exposition qui est visible à la salle de la Frache à Pierrevert sur vos voisins.
Oui, tout bêtement. Je suis allé chercher l'exotisme en bas de chez moi. Et la beauté aussi, si je reprends un petit peu ce que disait M. Lorieux, la beauté, elle existe aussi tout près de chez soi. Même si, bien sûr, les dames que j'ai photographiées n'ont pas tout à fait les mêmes proportions que...
Elles sont habillées aussi.
Elles sont habillées, oui.
Elles sont habillées. Comment ça s'est passé? Vous êtes allé, je suppose, dans votre quartier. Vous avez proposé à vos voisins de faire leur portrait. Et
voilà, j'ai proposé...
Dans leur milieu naturel.
Dans la rue. Je voulais que ça soit dans la rue.
Dans la rue.
Voilà. Et donc, j'ai commencé à démarcher, on va dire. J'ai invité quasiment la moitié de la rue à prendre l'apéro à la maison pour expliquer ma démarche. Ça a été relativement long parce que le temps que chacun comprenne un petit peu comment ça va se passer et surtout ce qui va se passer après, ça c'est la crainte de la photographie par rapport à monsieur et madame tout le monde. On a peur après que la photo circule dans des lieux peut-être pas très bien fréquentés ou des choses comme ça. Donc il y a eu tout un temps assez long, malheureusement. De mise en confiance, on va dire.
Vous avez apprivoisé vos voisins ?
Il a fallu apprivoiser mes voisins. Et en fait, ça s'est fait grâce à la toute première personne que j'ai photographiée, qui est, comme on en a tous, chacun dans son quartier, qui est la dame, quasiment la concierge, quoi. Enfin, celle que tout le monde connaît et qui connaît tout le monde. Et à partir du moment où j'ai réussi à la photographier et où elle était heureuse de sa photo, le reste s'est fait en 10 jours quasiment.
Vous avez créé du lien social dans votre quartier avec
Exactement,
ça ?
Exactement, oui. Les gens se sont parlé un petit peu plus. Alors déjà, par rapport à moi, il y avait beaucoup de gens que je connaissais parce que je les croisais tous les matins en allant au boulot. Maintenant, je les croise plus, on discute, on va même, il y a un petit bistrot un petit peu plus loin, donc ça nous arrive de nous retrouver, de passer 5 minutes devant une bière, et puis voilà.
Est-ce que vous avez fait une exposition dans votre quartier ?
J'ai fait une exposition, mieux que dans le quartier, dans la mairie de la ville où j'habite, à Saint-Dié-des-Vosges, voilà. Donc, l'hôtel de ville, la maison du peuple, si on peut dire, donc les gens de ma rue étaient présents en majesté, si on peut dire, dans la mairie. Ouais.
Vous avez d'autres activités photographiques ? Vous avez d'autres... ou d'autres passions ?
Non, je suis photographe à 100%. Ouais.
Et vous, à part vos voisins, vous photographiez quel type de sujet ?
Je n'ai pas de préférence. La seule chose que je n'ai jamais photographiée, c'est des animaux. Je n'ai pas cette patience, par exemple. Je dis bien tous les animaux, hein, ça part de la coccinelle jusqu'au renard ou au cerf. J'ai pas cette patience. Je suis incapable de passer 3 heures de temps à attendre qu'il se passe quelque chose. Quoi, voilà.
En tout cas,
mais par contre, j'ai fait du spectacle, j'ai fait... voilà. Ouais.
Et c'est une très belle exposition à voir, donc rue de la Frache, pendant les nuits photographiques de Pierrevert. Vous avez un site internet éventuellement, Philippe ?
Oui, philippecollignon.com, tout simplement.
Tout simplement, où on peut voir vos voisins et autres.
Et autres.
Si j'ai bien compris.
Exactement.
Merci beaucoup, Philippe. Bon festival ici même à Pierrevert. À vos côtés, c'est Wilfried Estève qui nous a rejoint. Bonjour, Wilfried.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste de l'image et notamment des médias, et vous proposez une conférence demain du sténopé à Instagram, autrement dit, l'utilisation de l'image quasiment à travers le dernier siècle ou les 2 derniers siècles.
Tout à fait. En fait, je suis photographe à la base. Mon cœur de métier durant une douzaine d'années, c'était de travailler dans les médias. Je travaillais dans à peu près 25 médias, ça allait de Géo, National Geographic, Marie-Claire, Elle, avec une faculté un petit peu à raconter des histoires. J'étais spécialisé sur le grand reportage. En 2005-2006, j'ai vu un petit peu l'avènement de pas mal de choses se passer sur Internet, et on est parti sur des nouvelles représentations de la photographie, dans lequel effectivement il y a les réseaux sociaux, sont aussi devenus des médias sociaux, où on a vu une photographie qui est devenue conversationnelle. C'est-à-dire aujourd'hui, une photographie, ça peut être interactif, ça se partage, c'est connecté. On en fait un petit peu ce qu'on en veut. Et derrière, on peut se l'accaparer aussi pour être sur des nouveaux formats qui sont un petit peu dédiés au numérique. Je parle de formats dans lesquels l'image fixe s'anime. Alors, c'est des choses qui existent depuis quand même un petit peu longtemps. On n'a rien inventé, sauf que le web a développé, généralisé des pratiques. Je pense à Chris Marker qui, dans les années 70, avec la jetée, a fait des choses magnifiques. Le diaporama sonore qui s'est transformé aujourd'hui en pomme, en web documentaire. Derrière, les réseaux sociaux se sont accaparés avec des filtres. Je pense à des applications. Mais à nouveau, les professionnels, nous, ça ne nous a pas étonnés parce que c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. La photographie, par exemple, il y a des traitements croisés en laboratoire. On fait ça dans les années 90. Ça s'est beaucoup généralisé chez les photographes professionnels. Aujourd'hui, c'est quelque chose que le grand public peut avoir avec une application. Donc, nous, on n'a pas trop vu des choses réellement bouger. On a vu des choses se généraliser. Donc demain, je vais parler un petit peu de toutes ces nouvelles écritures. Je reviens sur la narration, moi, que ce soit une série photo ou aujourd'hui des choses dédiées, des formats dédiés depuis la photographie qu'on retrouve sur le web. C'est une histoire qu'on raconte, sauf qu'aujourd'hui, on la raconte avec aussi d'autres formats, d'autres supports. Et c'est quelque chose qui permet d'avoir une photographie qui voyage un petit peu plus rapidement et qui aille sur des publics complètement différents. Le photographe que je suis aussi a aussi la fâcheuse tendance à avoir des travaux qui restent chez soi un petit peu trop souvent, qu'on nous montre peu. Et c'est vrai que cette opportunité du numérique, il faut savoir la saisir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu d'opportunité en tant que professionnel ou amateur de saisir autant de narration, de représentation de la photographie.
Est-ce qu'on peut dire un peu à la manière de M. Jourdain que des gens pratiquent la photo maintenant sans penser que c'est de la photo ?
Oui, alors il y a quand même l'éducation à l'image, c'est quelque chose de très important. L'image, elle est présente dans la société depuis fort longtemps. Et c'est vrai que cette éducation, tout photographe, professionnel, avant c'était un amateur. Moi, j'ai débuté très tôt faire de la photographie. Et puis au bout d'un moment, je me suis professionnalisé, j'ai gagné ma vie avec et c'est tant mieux. Le fait de pratiquer cette photographie, ce langage un petit peu universel, quelque chose de génial en soi, quoi. Donc c'est tant mieux qu'aujourd'hui il y ait des appareils à photographier qui ne soient plus des appareils que à photographier mais aussi à filmer chez les professionnels et que de notre côté des appareils qui servaient plus pour l'échange, la communication soient principalement souvent utilisés par le grand public comme des appareils à photographier. C'est très bien, moi je vois d'un très bon œil ce qui s'y passe. Je trouve que les guéguerres amateurs professionnels c'est un petit peu absurde. Tout le débat qu'il y a autour de la déontologie, à utiliser une application ou pas, c'est absurde aussi parce que, à nouveau, revoyons les pratiques des professionnels dans les années 80, 90, 70, il y a énormément de choses. On a toujours vu un petit peu l'évolution dans la photographie d'un mauvais œil. Des gens qui, au tout début, qui sont passés de la chambre à l'appareil photo, le 24-36, ça a été décrié. Bon, aujourd'hui, c'est un outil. À nouveau, il ne faut pas tout résumé à une simple technique. Ce qui est le plus important, c'est l'auteur, ce qu'on raconte derrière, le point de vue qu'on a et qu'on développe. Alors, si ça peut être depuis un appareil photo, depuis un Olga, qui est un appareil photo en plastique, depuis un Reflex Pro ou autre, on s'en fiche. C'est vraiment le regard qui compte.
On vous retrouve lors de votre conférence. C'est demain à 15h ici même.
C'est demain à 15h ici même. On fera
à la salle polyvalente de Pierre Vert.
Tout à fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est déclencher des envies de la part de tout le monde, autant des professionnels que du public. Je vais montrer des choses dans lesquelles on peut s'embarquer très rapidement, très facilement, quoi. Sinon, je tenais un petit peu à remercier. Il y a une qualité d'accueil ici qui est quand même exceptionnelle. Je suis habitué des grands festivals internationaux, soit Visa pour l'image, Arles ou autre. Et ici, déjà, je retrouve l'essence du début de festival que je côtoie depuis une vingtaine d'années. Ça fait plaisir. Il y a des vraies rencontres avec des auteurs, des photographes et le public. Enfin, ça, c'est vraiment bien de le dire. Il y a des rencontres avec la population. Moi, je suis accueilli par Stéphane et Pascal Gasparini. C'est génial. C'est une autre forme de venue dans un festival. C'est une spécificité ici. Je pense que je dois faire à peu près une quinzaine de festivals en France et en Europe. C'est une vraie spécificité. Je pense qu'il faut la développer et pérenniser un petit peu tout ça parce que vous avez une belle opportunité. Voilà, je voulais le dire.
En tout cas, ça va aller droit au cœur des organisateurs ici même et qui méritent ce type de compliments. Merci beaucoup, Wilfried. On rappelle votre conférence, c'est du Sténopé à Instagram. Et entre les deux, il y a un outil particulier qui s'appelle le Polaroid. Ça vous dit quelque chose ? Évidemment. Et le Polaroid, c'est ce qu'a utilisé Élise Herman. Bonjour, Élise Herman.
Bonjour.
Vous êtes photographe vous-même depuis déjà pas mal d'années et vous proposez une exposition ici à Pierrevert à base de clichés pris en Polaroid uniquement. Est-ce que vous pouvez rappeler, surtout pour nos jeunes auditeurs, ce qu'est le Polaroid ?
Ben, le Polaroid est une invention faite par Edwin Land dans les années 48, je crois. Et le Pola, c'est une émulsion, c'est l'instantané, l'immédiateté.
Donc on a l'image qu'on vient de saisir, qui est développée sous nos yeux avec le Polaroid.
Voilà, sans passer par la case labo.
Et donc on peut jouer de l'animation avec ça. Dans les fêtes, par exemple, dans un mariage, on dit tiens, je prends la photo, je l'ai tout de suite. Maintenant, voilà, on peut le faire avec le numérique, mais...
Dans le temps, c'était le but, c'était dans les soirées de Noël, en famille, tout le monde avait un petit SX-70 ou un Polaroid Land pour éterniser les moments en famille ou dans tous les milieux de mode aussi, surtout, je pense que Jean-Daniel Laurieux peut le dire, je pense que les tests étaient faits avant de faire l'Ecta. Avec un Polaroid et même qui se jetait, que maintenant on garde précieusement parce que je trouve que c'est magique et c'est un petit bijou.
Il y a un côté vintage peut-être.
Oui, il y a le côté vintage, il y a le côté aussi la marge du Polaroid, le vignettage qui est important, surtout sur les anciens Polaroids qu'on peut trouver encore via eBay ou avec tous les passionnés sur les sites Polaroid Passion par exemple. On peut trouver encore beaucoup de films hein, en stock, si on se débrouille. Il y a aussi un site très important où il y a beaucoup de photographes qui travaillent à la Folding, polanoid.net. Et là, vous trouvez des bijoux de Polaroid faits en landscape, paysage ou portrait, faits encore avec du vrai Polaroid. Ou chez Fuji, on peut trouver encore aussi. Mais c'est vrai que l'effet est... L'effet Polaroid, l'immédiateté, l'adrénaline, fait à la chambre ou bien avec un Polaroid à 3 euros trouvé dans une brocante ou dans un vide-grenier. Sauf que Polaroid 600 se trouve pas facilement et c'est maintenant Impossible Project qui a racheté Polaroid. Et la chimie n'est pas tout à fait au point encore.
On va espérer que ça évolue et puis qu'on puisse se retourner vers ces anciens supports qui sont tellement poétiques. Il y a un côté très, très particulier. Et votre exposition ici à Pierrevert le prouve également. C'est une exposition artistique où vous avez combiné pas mal de prises de vue très, très diverses. Hein. Il y a un petit peu de paysage, il y a des nus assez caustiques, des nus féminins, mais aussi masculins. Ouais. Et puis, il y a un côté humoristique, un côté dérisoire, un petit peu particulier, et qui s'y est particulièrement. Le Polaroid, pour vous, c'est le support qu'il faut ou vous utilisez aussi d'autres supports ?
J'utilise, en fait, au départ, je travaille à l'argentique, au relais et au Leica. Et le Polaroid a toujours été pour moi un support, mais plus carnet de route. Lorsque j'étais à Berlin, par exemple, j'ai couvert, après la chute du mur, pendant une dizaine d'années, l'évolution, la reconstruction de Berlin. C'est là que ça a vraiment démarré, le Polaroid. Toujours, je faisais un Polaroid, voilà, contrôle ou carnet de route. Le soir, quand je rentrais, je voyais un petit peu ce que j'avais au carré. Mais c'est vrai que Polaroid, depuis 2 ans, j'y suis à fond, quoi. Je suis vraiment à fond passionnée. Que ce soit à la chambre, que ce soit chez moi, dans mon loft, à la campagne, ou dès que je sors, comme hier soir, j'ai fait une prise de vue des chaises en noir et blanc, avec la dernière lumière, après les discours et tout ça.
Mais je vous ai croisé hier soir, effectivement, avec votre Polaroid en bandoulière.
Voilà, non, c'est quelque chose qui m'éclate, qui me passionne et qui me donne beaucoup d'adrénaline.
Quand vous faites une photo d'un homme ou d'une femme nue en Polaroid, vous la montrez après au modèle ?
Ah bien sûr, moi je travaille le Pola comme si je travaillais une photo par numérique, puisque je travaille peu le numérique, mais bien sûr je montre au modèle et le modèle est complètement avec moi lorsque je fais la prise de vue. Mais il y a un côté très spontané, posé, en fait. C'est très difficile.
Et puis un cousinage avec l'exposition de Philippe Collignon, du coup, qui lui expose ses voisins. Bon, et vous discutez avec les personnes que vous prenez que vous prenez en photo.
Il y a tout un rituel, surtout si on travaille à la chambre. Si on travaille à la chambre, on a tout le rituel de fermer le diable, de rien oublier, etc. Le dark slide. Enfin, il y a toute une technique. On met beaucoup de temps pour faire un polar. Hein. En fait, c'est paradoxal et contradictoire avec le côté instantané du carré et côté de la préparation de la chambre.
Ceci compense cela, peut-être.
Oui, c'est ça qui me plaît. J'ai un peu travaillé.
Élise Herman, c'est la première fois que vous venez à Pierre Vert ?
Tout à fait, c'est la
première fois. Quelle vision vous portez sans Polaroid sur ce festival ?
J'adore. J'adore le côté humain, le côté... Bon, tout a été dit tout à l'heure. Convivialité, le lieu, la sympathie, la simplicité et la qualité des exposants, aussi des expositions... Le contact avec les gens, non, ça me plaît beaucoup. J'ai adoré hier le buffet dans le chai, tout, l'expo aussi, l'exposition. Ça me plaît beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous.
Et nous ici, on adore découvrir des personnages comme vous, comme Philippe Collignon, comme tant d'autres, qui nous permettent d'élargir un petit peu nos connaissances. Merci beaucoup, Élise Herman.
Merci à vous.
On vous reverra avec grand plaisir à Pierre Vert. Je vais demander à Stéphane Kaussmann, le président des Nuits photographiques de Pierre Vert, de conclure cette émission. On arrive à la fin de l'émission. Et puis Jean-Daniel Lorieux est resté avec nous également. Peut-être qu'il aura quelques mots à dire sur cet épisode radiophonique particulier dans la vie d'un photographe. Stéphane.
Oui, on laissera le dernier mot à Jean-Daniel. François, je te remercie pour la qualité de ton travail. En tout cas, à chaque année, je te retrouve avec plaisir parce que tu connais bien ton dossier. Et vraiment, les interviews sont magiques. Je voudrais juste rappeler que nous allons continuer les stages photographiques avec Alain et François-Xavier qui sont en ce moment parmi nous, qui sont en train d'installer les dernières expos. Nos amis de Leica sont juste derrière moi. Je rappelle qu'on peut venir avoir en main un boîtier qui coûte une somme assez importante. Mes amis de Carré Couleur, qui sont là aussi depuis plusieurs années, sont juste derrière moi. Venez à la salle polyvalente. Tout ce matériel est à votre disposition. Vous pouvez le prendre en main, faire des photos avec. On a organisé une petite séance avec un trampoline. Et on aura le plaisir, ou avant ou après la leçon de photographie de Jean-Daniel, de voir Jean-Daniel prendre un boîtier et de nous donner quelques tips.
Oui, mais je pense qu'il est un petit peu difficile, là, avec le trampoline, de s'envoyer en l'air avec un Leica, non?
Je rappelle une chose.
Il y a de bonnes assurances quand même ici, Jean-Daniel.
Pour revenir à ce que disait Wilfried tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire des images avec un iPhone et il ne faut pas s'en priver. Personnellement, je suis très étonné. J'ai fait une image superbe sur la plage à Miami il y a quelques jours. Fantastique avec mon iPhone. Voilà, on en est tous là.
Ça évolue.
Ça évolue.
Oui, mais ce que disait justement notre ami avant, spécialiste des Polaroïdes, je trouve qu'entre la préparation d'une image avec un iPhone, qui est maintenant effectivement, tout le monde fait les photographies avec n'importe quoi, ce qui est extraordinaire, mais ce que vous disiez, par exemple, le Polaroid, qui était une chose instinctive, l'image sortait immédiatement, et quand au Polaroid, j'ai moi-même travaillé, je crois que c'était à la 20-25, à la chambre avec les Polaroids, donc la préparation d'une image derrière une chambre qui est un grand appareil photographique, mais la préparation est méticuleuse, etc. Le roi de l'époque à la chambre était Yusuf Karsh, n'est-ce pas, le portraitiste extraordinaire. Mais l'utilisation du Polaroid, je reprends ça parce que ce que vous disiez était très intéressant, et je trouve que la diversité de tous les moyens techniques qu'utilisent tous mes amis photographes est vraiment extraordinaire. Je trouve que donc tous les moyens de s'exprimer en image, que ce soit à la chambre, en Polaroid, avec un iPhone, tout ça fait qu'on peut dire vive la photographie et vive le festival, le cinquième festival de Pierre Vert, dont on est tous très heureux d'être là. Merci.
Et puis d'ouvrir tout grand les yeux, évidemment. Stéphane,
un œil en photo, c'est tout.
Mais les spectateurs peuvent ouvrir les deux, ça, il vaut mieux. Stéphane, un mot sur le prix de la...
Oui, je voulais juste rappeler que notre ami Jean-François Mutzig, qui habite ici à Manosque, nous fait la générosité de nous offrir un de ces merveilleux tirages qui est ici aussi à la salle pour notre tombola. Vraiment, venez admirer cette fabuleuse photo. Voilà, merci Jean-François aussi.
Il était là hier, Jean-François, on l'a aperçu. Puis il expose actuellement à Manosque avec notamment Sabine Weiss, qui était venue ici même à la première édition des Nuits photographiques de Pierre Vert, avec Hans Sylvester et Jean Barak. Voilà, j'aurais dit les quatre artistes qui exposent à la Fondation Carzou à Manosque.
Et le meilleur photographe de la région, je le souligne, hein, François-Xavier Emery, qui est en exposition à Manosque. Et personnellement, je n'ai pas encore eu le temps d'y aller. Mais je compte bien avoir une visite personnalisée.
La part de doute, et c'est à la Notre-Dame de Romigier à Manosque. Juste avant de rendre l'antenne et de passer aux infos nationales et internationales avec RFI, juste un mot sur une photo qui n'est pas une photo d'un artiste, qui n'est pas une photo de quelqu'un de très connu et que tout le monde connaît pourtant. C'est celle de Francis Colomb. Francis Colomb, qui est un otage en Afrique actuellement et qui est originaire de notre département. Sylviane Chaumont n'a pas pu être là pour en parler, le maire de Pierre-Vert, mais je voudrais qu'on ait une pensée pour ces personnes dont on voit les photos régulièrement sur nos antennes, notamment sur France Télévisions. Et Francis Colomb nous manque. Et son portrait est sur beaucoup de communes dans le département des Alpes d'Haute-Provence. Voilà aussi, quelque part, une utilisation de la photo qui est intéressante et où il y a du cœur. J'en profite aussi pour remercier tous mes collègues, Pascal, Patrice, ici même à Pierre-Vert, Meya à Manosque, et pour vous signaler que cette émission sera disponible sur notre site internet très prochainement, www.frequencemistral.net. On se quitte avec Marcus Miller qui a servi d'introduction à cette émission et qui joue ce soir à Barcelonnette, ce grand musicien de jazz. Il est à Barcelonnette, dans les Alpes d'Haute-Provence. Merci et aux prochaines Nuits photographiques de Pierre Vert. À bientôt.
Merci François. Quitte à faire cliché, j'aimerais juste rappeler de venir à Pierre Vert. Il fait beau durant le week-end. Venir ici, c'est bien. Il n'y a pas photo. Hein. Allez, au revoir. We'll be right back.